18h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Franchement, je pense qu'on va gagner.
Allez les Bleus et on espère un but de Benzé. On est ensemble.
Les supporters sont déjà prêts. Portugal-France ce soir à 21h. Les Bleus veulent prendre leur revanche après la finale perdue à l'Euro 2016.
Oui, ce n'est pas seulement d'ailleurs une affaire de revanche. Les Bleus peuvent finir premier de leur groupe s'ils s'imposent. Les enjeux de cette rencontre capitale aussi pour les Portugais.
Grosse explication de texte post-régional en marge du Conseil des ministres. Éric Dupond-Moretti s'en prend verbalement au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Le variant Delta sous surveillance en France, le nombre d'infections représente aujourd'hui près de 10% des nouveaux cas.
Le procès de Willy Pardon est toujours cette question. Est-ce bien sa voix que l'on entend lors de l'appel téléphonique passé par Élodie Kulik juste avant de mourir?
L'optimiste raisonnable des producteurs français de spiritueux. Après une année 2020 catastrophique, les ventes repartent à la hausse.
Et puis la Bourse de Paris termine en baisse de 0,91% à 6551 points.
La météo, Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Un peu plus de soleil demain.
Ça y est, enfin, il est de retour et nous sommes très heureux de le retrouver. Demain, la journée sera vraiment agréable sur le quart nord-ouest. Attention à l'est, toujours un risque d'orage parfois fort. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est une passe d'armes qui en dit long sur les tensions qui agitent la majorité présidentielle depuis la claque électorale des régionales et ça oppose deux poids lourds du gouvernement.
Oui, à l'origine de ce clash entre le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, les félicitations que Gérald Darmanin a adressées à Xavier Bertrand pour son score dans les Hauts-de-France. Le problème, Louis Dragnel, c'est que Éric Dupond-Moretti était lui aussi candidat, mais sur la liste de la majorité présidentielle.
Absolument, et c'est une anecdote qui illustre bien l'ambiance au sein du gouvernement. Pour bien comprendre, tout est parti en fait de propos tenus donc par le ministre de l'Intérieur qui vient d'être élu aux élections départementales avec plus de 50% des voix. Nous sommes lundi soir à Tourcoing. Au cours d'une conférence de presse, Gérald Darmanin félicite publiquement la victoire de son ami et rival politique Xavier Bertrand. Il emploie ces mots. Xavier Bertrand a été, je cite, « récompensé pour son bilan ». Très fier de sa propre élection, Darmanin poursuit « Sur notre canton, on a fait 6 fois mieux que la liste Pietraszewski ». Des félicitations que n'a pas du tout, mais pas du tout digéré Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui lui, justement, était sur la liste de Laurent Pietraszewski et qui a été balayé en ne dépassant pas la barre des 10%. Et donc ce matin, au début du Conseil des ministres, remonté comme jamais, Éric Dupond-Moretti lance à Darmanin « C'est une trahison ». Réponse du tac au tac, commence par gagner une élection. Alors il faut savoir que depuis l'arrivée au gouvernement d'Éric Dupond-Moretti venu de la gauche et la nomination de l'ancien LR Gérald Darmanin place Beauvau, ces deux poids lourds qui ont de vraies fractures idéologiques se forcent à afficher une bonne entente à la demande d'Emmanuel Macron, une bonne entente forcée qui commence désormais à se voir.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur qui a passé une partie de la matinée à s'expliquer au Sénat après les ratés constatés dans la distribution des professions de foi des candidats. Environ 9% des plis ne sont jamais arrivés dans les boîtes aux lettres, reconnaît Gérald Darmanin, le ministre qui a pointé la responsabilité et les fautes des deux prestataires, La Poste et la société Adrexo.
En PACA maintenant, le deuxième tour des régionales s'annonce très serré entre Thierry Mariani et Renaud Muselier.
C'est ce qu'indique un sondage IFOP fiducial pour Le Figaro et LCI. Le président sortant Renaud Muselier l'emporterait avec 51% des voix contre 49% pour son adversaire Thierry Mariani.
L'Euro de foot, on le disait dans les titres, Portugal-France, c'est donc l'affiche de ce soir, 21h, il y a comme un parfum de finale avant l'heure.
Ah, ou de revanche, hein, si l'on se souvient qu'il y a 5 ans, les Portugais sont devenus champions d'Europe après avoir battu la France en finale chez elles. On va bien sûr en parler des enjeux, mais on va d'abord s'intéresser à l'ambiance autour de cette rencontre. Première arrivée et premier assis, ces 3 supporters parisiens l'ont bien compris, ils sont déjà installés à la terrasse de ce café parisien.
On sait que les places sont chères, donc on réserve les places pour ce soir et on travaille en même temps.
Et là, pour l'instant, vous êtes au café?
Oui, on va peut-être pas rester au café tout le temps, mais il faut se maintenir réveillé pour ce soir.
Moi, personnellement, je pense que ça va être un match difficile parce que les Portugais ont fait quand même des bons matchs depuis le début de l'Euro. La France a eu un début correct, mais un deuxième match poussif. Après, à voir si Deschamps va faire tourner ou pas. Ou est-ce qu'il va se contenter de se dire on est qualifié, on va essayer de jouer la deuxième place et faire un nul. Je pense que ça va être un match difficile ce soir.
Et potentiellement, finir deuxième ou troisième, ça nous fera une route facile pour aller jusqu'en finale, on l'espère.
Franchement, je pense qu'on va gagner. Allez les Bleus et on espère un but de Benzé. Voilà, faut qu'il marque Benzé. Allez Benzema, marque, t'inquiète, on est ensemble.
Voilà, des supporters rencontrés par Alexandra Sirgan. Un match capital pour les deux équipes, même si la France est déjà qualifiée dans les faits pour les 8e de finale.
Oui, les Bleus jouent la première place du groupe, les Portugais leur qualification. Jean-François Pérez, vous êtes notre envoyé spécial à Budapest. L'enjeu est bien des deux côtés du terrain.
Oui, clairement. Alors, on va commencer par l'équipe de France parce que la place dans ce groupe, elle va tout changer pour la suite de la compétition. Les Bleus, certes, sont qualifiés, mais ils ont tout intérêt ce soir à garder la première place de ce groupe parce que derrière, ça voudrait dire qu'ils iraient à Bucarest pour rencontrer sans doute la Suisse, peut-être l'Ukraine. Si jamais les Bleus font match nul ce soir, ce sera sans doute la deuxième place. Et là, ça serait un voyage à Londres pour affronter l'Angleterre à Wembley avec 25 000 supporters anglais. Donc, c'est déjà beaucoup moins bien sur le papier. Et puis, la troisième place, ça serait vraiment la loterie avec comme adversaire possible la Belgique ou les Pays-Bas. Donc vous voyez qu'il est très important pour les Bleus de terminer bien classé. Le Portugal, lui, c'est simple, il faut absolument gagner ou faire match nul pour être sûr de poursuivre sa route dans cette Euro. Donc vous voyez, il y a de l'enjeu, il y a aussi, vous l'avez dit, le souvenir de la finale de 2016 remportée après la prolongation par les Portugais. Évidemment, c'est resté dans toutes les mémoires d'un côté comme de l'autre, sourire ou pas suivant qui on supporte. Sachez que Didier Deschamps a prévu de faire des changements ce soir pour ce match crucial. On aura sans doute les grands débuts de Jules Koundé en défense côté droit. On aura aussi sans doute le retour de Corentin Tolisso pour remplacer Rabiot en milieu de terrain. Et puis les trois attaquants vedettes Benzema, Mbappé et Griezmann seront reconduits. Le tout sous une température accablante. 36 degrés au moment où je vous parle, à plus de 18 heures. Il y aura sans doute une pause fraîcheur ce soir et un stade qui sera plein, 50-55 000 spectateurs, mais sans doute beaucoup moins bouillant que ce qu'il était par rapport au match de samedi face à la Hongrie. Voilà, au moins qui va un petit peu rafraîchir les choses.
Et une victoire des Bleus, évidemment.
Et une victoire des Bleus ce soir.
Merci Jean-François Pérez.
Une petite victoire des Bleus, c'est toujours serré contre le Portugal.
Envoyé spécial d'Europe 1 à Budapest, on espère que vous aurez raison.
Allez, Portugal-France ce soir à 21h, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h et jusqu'à 23h30, autour de Lionel Rousseau et ses invités.
Alors à Munich, l'Allemagne elle affrontera la Hongrie, 21h, la polémique a précédé le coup d'envoi d'ailleurs depuis bien longtemps.
Depuis que l'UEFA a refusé de voir le stade de Munich illuminé aux couleurs de la communauté gay et lesbienne, la capitale bavaroise voulait protester contre le vote par le Parlement hongrois d'une loi jugée discriminatoire à l'encontre des homosexuels. Pas de politique à justifier l'UEFA.
18h07, la suite du journal. On avait presque fini par l'oublier, mais le Covid est toujours là. Le variant Delta est d'ailleurs plus que jamais sous surveillance.
Il représente près de 10% des nouvelles infections. Il reste pour l'instant largement minoritaire, mais ce qui inquiète les autorités, Anne Le Gall, c'est qu'il gagne du terrain.
Oui, et c'est logique, malheureusement, dans la mesure où ce variant Delta est 40 à 60% plus contagieux que le variant Alpha, le variant britannique. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ce variant risque même de représenter fin août 90% des nouvelles infections en Europe. Et en France, même s'il reste pour l'instant minoritaire, les autorités sanitaires ont détecté plusieurs foyers actifs de transmission. Dans les Landes, ce variant Delta concerne déjà 70% des nouvelles contaminations. Olivier Véran et Jean Castex s'y rendront demain. Il y a aussi des clusters dans le Bas-Rhin et en Île-de-France. Ce variant Delta est responsable désormais de 12% des nouvelles infections. Alors à chaque fois, des mesures de dépistage ciblées sont mises en place, mais la vraie parade reste en réalité la vaccination avec deux doses. Or, 40% des Européens de plus de 60 ans ne sont pas encore totalement vaccinés, rappelle le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ces experts européens n'excluent pas un retour de l'épidémie au même niveau que l'année dernière si l'on relâche trop vite les gestes barrières cet été.
Bien, merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Europe 1. Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, le procès en appel de Willy Bardon. La cour a de nouveau entendu l'appel au secours passé par Élodie Kulik le soir de son agression.
Et puis retour sur une année 2020 catastrophique pour les producteurs de spiritueux.
A tout de suite. 18h10, la suite du journal avec Christophe Lamarre et on parle donc de l'appel au secours qui dure 26 secondes. C'est cet enregistrement terrible diffusé plusieurs fois devant les jurés de la cour d'assises du Nord aujourd'hui dans le cadre du procès de Willy Bardon.
Cet appel, c'est celui d'Élodie Kulik qui fait face à ses agresseurs. Deux voix d'hommes y sont audibles et la question est toujours de savoir si l'une d'elles appartient à Willy Bardon. Lionel Gougelot, les experts n'en sont pas certains.
Non, effectivement, et ces experts ne sont d'accord et formels que sur un seul point. Ce sont bien deux voix masculines que l'on perçoit en arrière-plan des hurlements d'Élodie Kulik sur la bande-son. Mais quant à la possibilité d'identifier scientifiquement une voix, eh bien là, ils sont plus perplexes. L'enregistrement est de trop mauvaise qualité, les bribes de mots trop inintelligibles. L'expert de la police scientifique lance même une mise en garde en direction de la cour, l'appelant à la prudence. La reconnaissance vocale est impossible quand on ne distingue pas les mots prononcés, complète un scientifique venu lui déposer comme témoin. un doute sérieux donc qui doit bénéficier à l'accusé, selon Stéphane Dacco, l'un de ses défenseurs.
Concrètement, il y en a une bande qui dure 26 secondes, sur laquelle on identifie des individus sur 0,7 secondes et 2 secondes, sur un enregistrement de très mauvaise qualité, qui en plus est biaisé par tout ce qu'on entend autour, c'est-à-dire la détresse de cette jeune femme qui n'est pas contestable. Et l'expert nous dit, on ne peut pas identifier quelqu'un. Je pense que tout est dit à ce moment-là. C'est-à-dire que très clairement, dans ce dossier-là, si on s'arrête aux éléments de preuve, il n'y en a pas qui impliquent M. Bardon dans ce dossier.
Pourtant, les proches de Willy Bardon ont bien reconnu sa voix dans l'enquête. C'est même ce qui a été déterminant dans son renvoi aux assises et sa condamnation en première instance. Et ils viendront d'ailleurs à nouveau témoigner devant la cour demain. Mais là encore, un expert temporise, même pour un proche, plus le document sonore est court et de mauvaise qualité, plus on a des chances de se tromper.
Lionel Gougelot en direct de la cour d'appel d'assises du Nord. Dans le Val d'Oise, un homme est mort après avoir reçu un coup de taser par un policier qui intervenait avec ses collègues pour procéder à une expulsion locative. Selon les fonctionnaires, il aurait tenté de les attaquer avec un couteau. L'IGPN est saisi.
Bruxelles valide le plan de relance français.
Et sur les 100 milliards d'euros de ce plan, 40 milliards seront financés sous forme de subventions européennes. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, est venue l'annoncer en personne à Emmanuel Macron au cours d'une rencontre à l'Élysée.
On en vient maintenant à ce record à la baisse, celui des ventes de spiritueux.
Cognac, rhum, globalement et depuis des années, les alcools forts n'ont pas la cote, mais l'année 2020 a accentué cette tendance en France. À l'étranger, les ventes à l'export ont reculé de 19% l'an dernier. La crise sanitaire et la réglementation américaine n'ont rien arrangé, comme le regrette Jean-Pierre Cointreau, président de la Fédération française des spiritueux.
L'année 2020 pour les fabricants de spiritueux a été une année contrastée, qui avait bien commencé, qui a dû faire face aux questions sanitaires, aux questions de réorganisation de la production. Ça a été compliqué à cause des États-Unis notamment, où le cognac, qui est notre premier produit vendu à l'exportation, a souffert des règles mises en place par l'administration Trump. En fait, on est en recul de 13% sur les États-Unis, de 11% sur la Chine. Finalement, les ventes 2020 ont été en baisse, mais je dirais comme au niveau mondial, puisque les ventes mondiales de spiritueux ont baissé de 6%. Nous, en France, les spiritueux ont baissé de 2% en volume.
Le président de la Fédération française des spiritueux avec Maud Descamps, et l'année 2021 s'annonce bien meilleure. Il parle même de résultats encourageants.
Bien, il faut se remettre à picoler. Non, je plaisante. À consommer avec modération, c'est une blague évidemment. Merci, c'était le journal de Christophe Lamarre. La météo avec Anissa Dadi, le retour du soleil par le nord-ouest, c'est la bonne nouvelle du soir.
Ça y est, enfin, oui Julien, nous y sommes. Demain matin, des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Bretagne et la Normandie, le ciel est dégagé avec de belles éclaircies généreuses. Dans l'après-midi, le soleil va même gagner du terrain. Il avance, le soleil va toucher la Bretagne, la Normandie, le Nord.
Alors pour ceux qui ne voient pas, vous faites les gestes avec les mains.
Oui,
voilà,
je fais
le soleil progresse de gauche à droite.
Exactement, il avance, bien. Le soleil rentre dans le pays. Donc la région parisienne, les Pays de la Loire, le Nord, la Bretagne, la Normandie seront sous le soleil demain. Le centre, la Gironde également. Là, pour tout le monde, c'est une journée agréable. Sur le reste du pays, c'est un petit peu plus compliqué, notamment à l'est, des Pyrénées jusqu'au Grand Est. En Auvergne, en région Rhône-Alpes, le temps reste encore instable, avec un ciel qui alterne entre nuages, averses et éclaircies. Sur le massif central et les Alpes, nous aurons des orages. Sur les reliefs, les températures, elles sont bien fraîches pour la saison, avec 12 à 20 degrés. Demain matin, 8 à 11 en Bretagne, c'est frais. Et puis au meilleur de la journée, comptez 17 degrés seulement à Cherbourg, 19 à Clermont-Ferrand, 21 degrés à Paris et Rennes, 22 pour Bordeaux, 23 à Lyon. Et alors dans le sud, c'est l'été, 28 à Nice, 29 à Marseille et 31 degrés la maximale pour Bastia.
Eh bien, il y en a qui ont de la chance. Un salut à Mickaël, à nos amis basques. Et à nos amis Bastier, qu'est-ce que je racontais, et Corse. Merci ma chère Anissa, vous me troublez. Je suis content de vous retrouver. À tout à l'heure, 18h30.